Ce que j'aime dans l'évangile de Jean, c'est qu'il met Nicodème en chapitre 3, puis il met la Samaritaine en chapitre 4 pour nous voir que Jésus prend n'importe qui, n'importe quel niveau, n'importe quelle expérience de vie. Et vous avez eu ce feeling-là avec une conversation avec quelqu'un très avancé, tout. Puis tout de suite, tu vires de bord, puis tu es en conversation avec quelqu'un qui est complètement à un autre niveau. Et vous adaptez pour... Wow! C'est quoi? Et Jésus fait ça assez souvent aussi. Donc, arrive la Samaritaine. OK, la Samaritaine, vous vous rappelez que Jésus devait passer par la Samarie. Et là, il est complètement basic. Il a soif. Madame est là à midi parce que c'est le temps où les autres ne venaient pas chercher de l'eau. C'était plus tôt ou plus tard. Elle est toute seule. Elle ne veut pas voir personne. C'est pourquoi elle est là. Et il y a toute cette question-là. Pourquoi tu me demandes à boire? Moi, je suis une femme samaritaine. Et vous vous rappelez de cette histoire-là. Et puis Jésus dit, si tu savais à qui tu demandais, donne-moi à boire, tu lui demanderais et tu donnerais des sources d'eau vive. Ma première question, est-ce qu'elle a une idée de quoi il parle quand Jésus lui annonce qu'elle peut boire des eaux de sources d'eau vive jusqu'à la vie éternelle? Est-ce qu'elle est là? Ah oui, c'est ça, c'est la même chose. Encore là, Jésus commence avec un discours que la madame est comme, « Quoi? » Oui, elle comprend quelque chose d'autre. Elle dit, « Donne-moi de cette eau-là, parce que comme ça, j'aurais plus besoin de venir ici. » Elle pense que Jésus vient d'inventer les tuyaux. Mais vraiment, elle est à ce niveau-là. Et Jésus dit, « Wrong, c'est pas ça. » OK? Mais tout ça, hey! C'est assez intriguant. Encore là, Jésus lance une idée qu'elle doit réfléchir, qu'il sait très bien qu'elle ne comprend pas, mais c'est un besoin ressenti un peu, parce qu'on parle de d'eau et tout ça, mais c'est plutôt son besoin à lui, Jésus, là, qui a soif. Mais cette conversation tourne en rond, ça tourne en rond et tout ça. Mais là, je vous ai donné des passages parallèles, là, elle ne comprend pas de quoi... C'est quoi ça, là? J'aime cette photo-là. Hein? OK. Ça vient du film Jésus, là. Non. Mais elle est suspicieuse pour toutes sortes de raisons. Hein? Il y a bien des choses qui ne marchent pas, là. Jésus est en train de renverser des barrières. Paul dit, « Je me suis fait tout à tous. » Donc, Jésus... Il fait des choses pas correctes dans la conversation en parlant avec une dame d'abord et une femme samaritaine en deuxième. Et Jésus dit, non, mais l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements. Parce que là, elle est captive, elle est dans sa petite boîte à elle et Jésus va exploser sa façon de penser. Okay? C'est où sont les barrières pour l'évangile que je perçois autour de moi? Les gens, non, ça se fait pas, ça se dit pas, tu ne peux pas. Ah oui? Mais peut-être c'est le temps de mettre le pied là-dedans, comme Jésus fait. Comme j'ai souvent dans mon idée, cette personne ne serait jamais intéressée. Pourquoi donc l'agacer avec mon discours-là? C'est impossible. Mais la femme samaritaine était impossible. C'est une conversation qui était un cul-de-sac. Ça ne peut pas avancer. Et Jésus foncé dans ça. Juste des questions-là. OK. Quel faux raisonnement dois-je déconstruire? Vous connaissez peut-être le livre de Nick Pollard de l'évangélisation légèrement moins difficile. Il lance l'hypothèse de faire la déconstruction positive. Lui est anglais. Il fait des débats dans les universités d'Angleterre. C'était un livre qui est publié par University en premier, puis repris par Farrell en français. Comment défaire gentiment une idée qui nous est lancée pour essayer d'avoir une conversation qui avance juste sur ça, rejoindre la personne où elle est, comment commencer à décortiquer le tas de choses qui sont incohérentes dans ce qu'ils disent, pour essayer d'amener la personne à mieux raisonner vers un but de quelque chose. Et juste là, laisser la personne avec une idée, OK? Mais c'est un livre très drôle et pas difficile à lire du tout. Et ça vous donnerait plus d'idées que oui, vous pouvez parler avec quelqu'un ou écouter quelqu'un et accompagner cette personne-là dans son raisonnement vers une compréhension de la vérité un peu plus, OK? Légèrement moins difficile. Bon, la question pour la madame, c'est que Jésus n'avait pas le droit de toucher à sa coupe. Le texte dit les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation ensemble, mais l'idée du mot, c'est qu'on ne partage pas la même vaisselle. Tu vas rendre impur, mais tu vas te rendre impur en touchant à notre vaisselle. On ne fait pas ça. Et Jésus dit, madame, si tu savais. Hein? Donc, elle est là pour penser quelque chose. Donc, elle encore là, elle est dans l'incohérence de l'eau vive. C'est quoi tout ça? Elle ne comprend pas du tout. Et là, j'ai vu encore le même verset. Mais là, j'aimerais juste comparer un peu, faire un vis-à-vis. Il y avait deux incohérences dans Jean 3 et Jean 4. Nicodème ne comprenait pas le naître de nouveau. Ça, il ne catchait vraiment pas ça. Et il pensait que c'était de renaître. Et madame, boire de l'eau vive, elle pense qu'elle n'aura pas plus besoin de venir chercher de l'eau. Elle aura toujours dans sa coupe. OK? Donc, les deux n'ont pas du tout compris l'idée. Mais Jésus va dire, OK, mais là, pourquoi Jésus a-t-il choisi ces images que les gens n'ont pas comprises? Pour les brasser, pour leur donner quelque chose à mijoter, que, sachant que sur le coup, c'était pas, ça n'allait pas loin dans la discussion. Bon, quelle est la densité des images et du vocabulaire biblique dans mes conversations que peut-être sont trop épais? Les gens mais Jésus a pris une chose qu'il ne catchait pas cinq. OK? Mais moi, si je leur donne tout mon voyage, OK, là, c'est ça, l'évangélisation que je fais, là, j'ai un camion plein d'idées bibliques, la personne est là, la personne me lance une idée, puis je rentre dedans. Kaboom! Et là, je leur mets tout le voyage. Et bien, la personne, je vois un bras, je vois... ils sont là. Avez-vous compris? Non, hein? Mais là, vous n'êtes pas sauvés, c'est ça votre problème. OK? Mais c'est ça, mais Jésus ne fait pas ça. Oui, il parle des choses qu'ils ne comprennent pas, mais une chose à la fois. Bon. Bon. OK, là, elle parle de... Et là, le sujet change. OK, là, c'est évident que l'affaire d'eau vive n'a pas avancé beaucoup. Donc, va, dit-il, mais c'est Jésus qui change le sujet, verset 16. On est dans la colonne de gauche, troisième paragraphe. Va, lui dit-il... « Appelle ton mari et reviens ici. » Silence. OK, là, qu'est-ce que je fais avec ce gars-là? Là? « Mais monsieur, je ne suis pas marié. C'est de valeur. Mais ce n'est pas le cas. » Et Jésus lui dit, « T'as bien dit que t'es pas marié. » C'est vrai. Car tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Pour ça, tu dis vrai. Oups! Là, on parle des vraies choses. On ne parle plus de l'eau vive. On ne parle plus de juifs et samaritains. On parle de quelque chose qui est très profondément blessé dans son cœur, qu'elle n'a pas pu, à l'époque, plaire à un homme pour être gardée. Elle ne peut pas garder une relation stable. Elle s'est fait rejeter cinq fois, au point qu'elle désespérait que l'homme qui l'a reçu maintenant, elle essaie même pas de le clouer en mariage. Il n'est pas possible, oublie ça, là, je ne suis pas assez bonne. OK? Là, on parle des vraies choses. Et là, pour se protéger, elle part en débat théologique. Regardez bien ce qu'elle fait là. Seigneur, 19, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle ne nie pas, hein? Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? On part dans une discussion. C'est quoi la vraie place de l'adoration? C'est quoi la bonne montagne? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la conversation? Je ne veux pas parler de ça. Je préfère parler de qui a la bonne religion que de parler des vraies choses. Avez-vous jamais eu une discussion? C'est qui a la bonne religion quand vous savez très bien que la personne ne voulait plus parler de le vrai problème dans leur vie? Parler de la bonne religion, qui a la bonne religion, là, il n'y a personne qui... Ça touche personne. Ah oui, c'est intéressant. Ching, 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 on est dans le débat. Ah oui, oui. Mais Jésus dit, wow, madame, là, il vient un temps que c'est pas ni sur cette montagne-là, ni sur l'autre. C'est pas ça. Le salut vient des Juifs, c'est vrai. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs, entre guillemets, autrement dit, Dieu te cherche. Veux-tu être un vrai adorateur? OK, là, il n'est pas bifurqué par la discussion. Il la ramène encore chez elle. Madame, Dieu te cherche. Donc, là, elle part. Ah, oh, mais là, excuse, il y a juste la dernière phrase qui est assez intrigante. L'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit, car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Autrement dit, arrêtons de parler de tout ça. Il y aura quelqu'un qui va finir la conversation. Ben, j'ai fini de parler avec de tout ça. Sauf que Jésus finit la phrase, la discussion d'une manière inattendue. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et encore là, c'est le bâton de dynamite là, qui vient lancer chez madame. Oh oui, parlons de Messie, oui, c'est moi. en passant. C'est bien que tu t'en parles parce que c'est justement moi. Bonne chance. Oui.
Mais c'est la première fois, c'était Dieu te cherche toi, puis là c'est Dieu te cherche maintenant.
Oui, ça vient. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une lumière, puis là c'est une lumière très forte, puis là c'est un gun à laser, là c'est que ça brûle. Là. C'est moi. Mais là, cette fois-ci, là, elle part pour dire. Mais la femme laissa donc sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens, et là, j'aime son évangélisation explosive, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Imaginez, la madame a quelle réputation en ville, elle? OK? Imaginez, là. « Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ah, OK. J'aimerais voir ça. Ça doit être intéressant. Et là, j'appelle ça... l'évangélisation à la police. OK? C'est sordide, c'est pas correct, c'est à l'envers, c'est une personne très nécessiteuse et là, qui a une réputation très mauvaise en ville. Venez voir l'homme qui m'a dit tout. C'est curieux, hein? On n'a pas le texte où les disciples sont dans l'histoire. Là. Allez retourner dans Jean 4. Là, vous allez voir que les disciples ne comprennent pas du tout l'idée. Ils sont outrés par la Samarie. Il veut faire l'évangélisation explosive, demander le feu tomber sur la Samarie et tout ça. Et c'est cette madame-là, tout croche, qui évangélise la ville, que les disciples sont trop purs pour toucher. OK? Donc, c'est l'ironie dans cette histoire-là est totale, mais ça, c'est un autre message, mais c'est une autre conversation, mais assez intriguant. Oui. Non, OK. C'est beau. Vous voyez que là, elle va, est-ce possible que c'est le Christ? Est-ce possible? Et les gens viennent, et là, c'est un de mes textes préférés, Jésus chicane les disciples, il dit, vous pensez que ça va être plus tard? Déjà, la parole est en train d'être semée, déjà, la moisson vient, et là, il parlait du village qui s'en vient là, quand les disciples sont comme, pourquoi il parle avec une femme? Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient de chercher de la bouffe. un peu cochère, là. Tu n'as aucune idée combien c'était difficile de trouver de quoi manger ici. C'est pourri ici. Et Jésus dit, ouvre les yeux. Et donc, à la fin, les autres disent de la madame, on sait très bien que madame est en difficulté. Mais c'est elle qui nous a fait venir ici. Mais là, maintenant, on croit en toi, Jésus, parce que c'est toi qui a l'intégrité, qui est digne. On croit en toi. On ne croit plus juste à cause de son témoignage qui est difficile. C'est une personne compliquée. Mais on croit en toi. Et les gens peuvent distinguer. Parce que là, dans une église, les gens vont dire, comment quelqu'un qui n'a pas de l'ordre dans sa vie, comment il peut témoigner? Et les gens savent que la personne n'est pas en ordre. Les personnes savent que ce n'est pas correct. Ils ne s'attendent pas à ce que la personne soit tout arrangée, correcte, parfaite, beau, mature et tout ça. Je dirais même que les personnes qui ne sont pas correctes ont tendance à plus évangéliser, à plus parler de leur foi parce qu'ils n'ont rien à perdre. Que quelqu'un qui est tout... Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? On se protège. Donc, on dit beaucoup moins que quelqu'un qui est comme elle. « Hey, viens voir! » Donc, c'est ça. L'ironie est totale dans tout ça. Donc, où sont mes questions, là? On parle des vraies choses. OK. Quand c'était la dernière fois que vous avez eu une discussion des croyances qui n'ont pas donné rien parce que vous êtes resté sur le niveau de parler des croyances, elle dit, « Allô, allô, es-tu là, là? Est-ce qu'on va baisser est-ce qu'on peut parler des vraies choses? Comment aller pénétrer? Et avec quel résultat est-ce que ça a donné? » Souvent, pas grand-chose. Peut-être parfois, oui. Mais moi, dans mon cas, trois fois sur quatre, une discussion des croyances, on n'a pas parlé de où la personne est vraiment. Les gens ne sont pas dans les croyances. Ils ne sont pas emballés dans tout ça. Ils sont dans leur façon de vivre, mais évidemment, leur croyance affecte la façon de vivre, mais c'est ça la question de déconstruction positive et tout ça, de les amener avec. Qui es-tu assez proche pour leur parler des choses qui ne vont pas bien dans leur vie? C'est ça l'approche de Jésus avec cette madame-là. Il a abordé le sujet, lui. Va appeler appeler votre mari. Il a eu le guts d'ouvrir ce... Parce qu'il savait, OK, ben mais je dirais que si on n'a pas parlé des choses qui ne vont pas dans la vie de la personne, on n'a vraiment pas accueilli la personne où elle est vraiment. Donc, comment avoir l'humilité et l'accueil et l'accessibilité pour que les gens nous parlent des vraies choses dans leur vie? Ou commencent à nous donner quelques insights de qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Là, on parle des vraies choses. Okay? Quand et comment peux-tu être à l'écoute de ces sujets-là? C'est là où on est vraiment. Donc, c'est ça, la madame. Venez voir. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'ai rien à perdre. Il m'aime comme je suis. Il dit qu'il me cherche. Il dit qu'il est le Messie. Il me connaît. Il a bu de ma coupe. Et je comprends pas. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Venez voir. Okay? C'est ça, la question. Et là, il pouvait distinguer entre messager et le messager. Bon, vous comprenez ça pas. Bon. Est-ce que les gens voient que tu veux vraiment suivre Jésus, même si tu n'es pas sans défaut? Est-ce que ça vient vraiment de la direction de ta vie? Est-ce qu'ils sont... Et ils voient très bien. J'ai des gens dans mon église qui ont tellement été comme... mis en... C'est quoi le mot que je cherche? Légalisme. Qu'ils pensent, oh, mon témoignage! Oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Ouais. Ils vont penser que tu es un pécheur. Quoi de neuf? Ils vont penser que tu n'es pas Dieu. OK? Relax. Ils savent ça. Ils vont pouvoir faire la distinction. Donc, donne-leur la chance de voir que tu as besoin de pardon aussi. Pas plus grave que ça. OK. Question sur la Samaritaine. Réflexion, observation pour elle. C'est un peu injuste parce que Jésus savait qu'elle avait un problème, qu'on ne sait pas ça toujours, nous. Donc, c'est une conversation un peu truchée. Mais pour nous, le défi, c'est d'être assez proche à ces gens-là pour leur donner la chance de parler de leur vraie situation de vie. Et de là, entrer dans une discussion de l'amour de Dieu et du pardon et de, de lumière dans leur vie dont ils ont besoin, et pas juste encore là de commencer avec notre discours en premier. Oui.
Mais moi, ce que j'aime, c'est que Jésus, il n'a pas pensé à tout comme il ne faut pas qu'il parle aux Samaritains, encore moins une femme. Ça, il s'est enlevé toutes ces barrières-là pour parler avec elle. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un bon exemple aussi de nous, on n'a pas à penser où, comme qui est cette personne-là, tout ça. On s'abaisse à son niveau, puis on parle clairement. Là.
Oui, mais on fait notre profiling, on dit que cette personne ne peut pas être intéressée. Combien de fois je ne l'ai pas verbalisé, mais c'est dans ma tête. Il faut le dire. Okay? Et Jésus ne fait pas ça. Et je dirais même, c'est probablement à l'inverse, que plus je pense que la personne doit être intéressée, moins elle est. Et plus je pense que la personne ne peut pas être intéressée, probablement elle est beaucoup plus intéressée que je pense. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas où Dieu... Mais Dieu est à l'œuvre dans le cœur de cette personne-là. Et le blocage, c'est plus moi que de mettre déjà l'idée qu'ils ne peuvent pas avancer. Dieu les cherche déjà. Ouvrons les yeux. C'est ça, ce texte-là, oui. En attitude, ce n'est pas nécessairement de tout domper sur tout le monde, parce qu'il y a une discussion à faire, mais quand même en attitude de dire, moi je suis prêt à te dire, à te montrer que je ne suis pas le succès total de non, je ne suis pas plus beau et plus fin que ça, je lutte avec ta-ta-ta, je suis déçu de ta-ta-ta, mais là je sais que Jésus est celui que je veux suivre. Je n'ai rien prouvé. La seule chose que j'ai à prouver, que Jésus a toujours été digne de ma foi, mais pas moi. Okay? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est une attitude, parce qu'on pense qu'on doit être beau et fin, et toutes les questions répondues, on a l'affaire, on est bien, ah que c'est merveilleux, tu dois venir à mon église, et c'est parfait, c'est fantastique, c'est vraiment la bonne... Voyons. Non, je lutte, j'ai des choses qui ne collent pas. J'ai fait des erreurs avec dernièrement dans mon couple. On est en réparation de tout ça, mais je sais que Jésus est la lumière de notre situation telle que nous sommes. Oui, oui, c'est Jésus qui est digne d'être suivi. C'est lui le sauveur. C'est ça son témoignage, elle. Elle ne dit pas, venez voir tout ce que j'ai fait pour être parfait dans ma vie maintenant. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être lui le Christ, n'est-ce pas? Donc, elle voit en lui la solution de ses problèmes. J'annonce aux autres ce que j'ai trouvé comme le début des solutions dans ma vie, que je n'ai pas encore tout mis en pratique, là. Je suis quelqu'un qui suit Jésus, pas quelqu'un qui... à Jésus dans ma boîte. Okay? J'ai trouvé la vérité. Je ne l'ai pas, la vérité. Voyez-vous la distinction, non? Je veux la suivre, mais ce n'est pas moi qui l'ai. C'est lui. Okay? Donc, il y a une étape d'humilité dans ça, que je travaille avec ça encore, moi. Je n'ai rien à défendre, j'ai rien à prouver, c'est pas ça. Oui.
Habituellement, quand je suis en conversation avec quelqu'un, l'idée qui me vient toujours en tête, c'est de dire à la personne que je ne suis pas à mesure de te convaincre.
Oui.
De quoi que ce soit. Ça, c'est toujours une idée que j'essaie de placer devant pour donner une idée claire à la personne que ce n'est pas mes mots ou ma manière de parler. La force de ma parole ou l'intensité de quoi que ce soit qui peut amener à voir clair par rapport à tout. Seul le Saint-Esprit peut, n'est-ce pas, parvenir à te guérir sur ce que nous sommes en train de dire.
Oui. Oui, c'est pas moi qui a raison, en fin de compte. C'est pas moi qui va déterminer, qui va te convaincre de tout ça. j'ai découvert et je trouve en lui. Et je travaille sur ça et je découvre ça. OK? Mais j'aimerais t'accompagner à ta découverte des choses en lui. C'est vrai. Je pense que je peux te donner une certaine lumière de ce que j'ai découvert, mais elle n'est pas à moi, c'est parce que je veux la suivre. C'est juste ça un peu l'attitude dans ça. Bon, question, oui. Oui, mais c'est ça la meilleure place que nous sommes des disciples de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, mais c'est lui qu'on suit. Donc, on a rien à protéger. Oui, on veut être intègre. Oui, on veut être honnête. Oui, on veut être sincère et tout ça. Je ne suis pas contre ça. Et le Saint-Esprit nous appelle à une transformation de vie. C'est vrai. Nous appelle à une transformation de vie. OK? Mais c'est quelque chose à je suis un disciple, j'apprends, je suis en cheminement, OK? Je l'ai trouvé, mais je découvre encore et sa parole me dérange encore, son Saint-Esprit me convainc de mes péchés encore. Oui, j'ai rien à cacher, à protéger, j'ai pas à avoir honte que je suis encore en cheminement. C'est comme ça. Bon, la pécheresse, page 4, où est-elle là? La Samaritaine, je vais juste la coucher. Je vais la coucher. Non. OK, où est-elle? Je ne riche. OK, la pécheresse. OK, elle est là, elle. OK, là, un autre verset. Et le dos. On est là. OK. Un autre verset qui dit qu'on a une rencontre personnelle, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Romains 2, Dieu jugera par Christ Jésus les actions secrètes des hommes. On va voir Jésus droit dans les yeux. Il va tout savoir de tous mes secrets. Donc, ici, avec Matthieu, en Luc 7 plutôt. Là, il y a un dîner, et rappelez-vous qu'au dîner de Moyen-Orient, les gens sont assis autour d'une table assez basse, comme ils sont allongés autour pour manger comme ça, à la main comme ça. Donc, pour avoir madame qui va laver les pieds de Jésus, elle n'est pas en dessous de la table comme ça pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça n'a pas de sens. Okay? Juste pour mettre le contexte un peu que c'est assez difficile à saisir. Mais là, il y a un cercle de personnes, les têtes autour et les pieds font comme ça, comme des rayons. Et là, elle est là pour... Et que les personnes qui travaillent autour, les pauvres, whatever, c'était pas bizarre d'avoir quelqu'un présent, regarder qu'est-ce qui se passe ou whatever. C'était pas inconnu d'avoir d'autres personnes autour. Donc, elle arrive là. Un pharisien, moi je suis en page 4, en haut, verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison du pharisien et se mit à la table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans sa maison du pharisien. Elle apporta un vase d'alabâtre plein de parfum et se tint derrière ses pieds. Elle pleura et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuya et avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui la touche et ce qu'elle est une pécheresse. » OK, là, j'aimerais juste te dire que, premièrement, l'importance des gestes comme confession de foi. OK? Là, elle fait tout ça. OK? Oui, bien. OK. Elle pleure sur ses pieds. Elle les essuie de ses cheveux. Elle met de parfum sur ses pieds. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Évidemment, c'est du gestuel, OK? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est quoi la communication? On communique par nos gestes, hein? Merci. OK. Hein? Vas-y. Pardonne-moi. Un acte d'adoration. Pitié de moi.
Est-ce que c'est pas un peu. Je suis totalement dévoué à toi.
Oui, oui, oui. Je suis totalement dévoué à toi. Toute cette affaire de pardon, d'adoration, de. C'est une. Au moins, on peut dire tu es la solution. Tu es mon seul espoir. Tu es celui qui peut m'accueillir. OK? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a déjà compris de lui ou pas, mais là, c'est certain qu'elle lui demande. elle dit, « Tu es le seul qui peut m'aider. » OK? Au point que les larmes, ça doit être de regret, de chagrin pour ses péchés. Le parfum, c'est toi qui es le plus important. Mais parce que c'est une grande valeur ce qu'elle vient. Parce que en réalité, là, évidemment, les prostituées ont beaucoup de cash. Et elle est en train de pitcher toute sa valeur marchande pour dire c'est toi. Tout ça, là, ça me donne absolument rien. C'est toi qui es le plus important. C'est toi qui. C'est presque l'idée que j'avais d'autres dieux dans ma vie avant, et là, je les casse, je les brûle, je les verse devant toi, sur toi, parce que c'est toi le plus important maintenant. C'est un geste de. Dans les cultures. Dans d'autres cultures, on appelle ça un power encounter, là. Elle est en train de dire tout le reste. Je vais le briser pour dire c'est toi le premier. Oui.
Je ne sais pas si tu vas parler de la réaction du pharisien.
Oui, évidemment. Oui, oui.
Parce que, je me suis demandé si...
Okay, continue. Non, toute la question est là. Encore, comme le paralytique devant, la discussion est comme trois voix là. Okay. Oui, c'est une discussion avec elle, mais c'est autant une discussion avec Simon, okay. Comme la discussion avec le paralytique, tes péchés sont pardonnés, c'est pour lui, mais c'est aussi pour l'entourage. Et donc, cette discussion est aussi pour Simon. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, lui répondit-il. Un créancier avait... » deux débiteurs, l'un qui avait 500 deniers et l'autre qui devait 500, l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce la dette sur tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans la maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu l'huile sur ma tête. Et quitter des choses ordinaires, c'était pas un grand signe de. Il fallait faire ça pour un visiteur, pour un invité, que Simon n'a pas fait parce que on sait pas si ce gars-là, là, on le tient au bout de bras, nanana. Donc, mais elle fait exactement le contraire. Et elle a répandu le parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui qui l'en pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est ça la phrase que je cherche dans ces conversations-là. Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est ceci? Il se prend pour qui pardonne même les péchés? Il se prend pour Dieu, encore là. Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Toute une conversation là. Elle n'a pas dit grand-chose, elle. Mais voyez-vous, l'importance de ses actions, ses gestes, comme une communication. Parfois, il va y avoir des gens qui s'expriment pas bien leur foi correctement, comme on aurait aimé. Là, peux-tu prier avec moi? Ils sont pas aussi verbomoteurs pour pouvoir mettre un mot à chaque chose dans leur désir de suivre Jésus. Mais peut-être leurs gestes le disent. OK? Nous sommes un monde, surtout en GBU, et la plupart des leaders chrétiens, là, on est assez éduqués. Donc, nous pensons que les gens doivent être capables de verbaliser tout ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils ressentent, mais ce n'est pas toujours le cas. Cette madame-là n'a pas un vocabulaire très grand. Mais son cœur est là. Sa foi est là. Jésus l'accueille comme ça. Et il dit, ta foi t'a sauvé. Hein? C'est ce qu'il dit? Où est-ce qu'elle a dit, je crois en toi? Elle a dit avec ses larmes. Elle a dit avec ses cheveux. Elle l'a pas dit avec ses lèvres. C'est-tu une confession de foi? Ça a l'air que oui. Jésus l'a accueilli. Ta foi t'a sauvé. OK? Donc, je vais juste brasser la cage, là. OK? Donc, voyez-vous que parfois, nous mettons trop d'insistance sur l'idée verbale de quelqu'un, quand en réalité, est-ce qu'on peut accueillir d'autres manifestations d'une foi sincère qui ne cadrent pas avec. Mais moi, j'ai ma carte, là. J'aimerais signer la carte. Avez-vous fait une confession? Faites-vous une confession. Répétez après moi. Là, c'est ici, là. C'est ça la foi, hein? C'est de la bouche, OK? Il y a un verset pour ça, OK? Mais ce n'est pas juste ça, OK? Jésus cherche les fruits de repentance. Donc, est-ce qu'il y a des fruits? OK? Va en paix. Donc, là, quand les gestes parlent plus fort que les paroles, il y en a bien d'illustrations de ça. Paul va dire en Galates, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Je vous ai donné le verset là. Vous connaissez les cinq langages d'amour. Lesquels les cinq langages d'amour ont été en évidence dans ce texte-là, cette madame-là? Elle a utilisé lesquels? Toucher, oui. Geste de service. Cadeau. Pas de parole valorisante, non. Peut-être tant de qualité. Parce qu'elle a cherché Jésus, elle est là, OK? C'est pas juste qu'elle... OK. Mais voyez-vous, plusieurs, mais pas parole. Est-ce que ça veut dire que le langage n'est pas là? Que sa communication n'est pas là? Mais elle est là. Elle est là, très clairement. OK, bon. Les gestes que j'ai posés cette semaine ont exprimé mon amour? Quels gestes ont exprimé mon amour pour Jésus? Est-ce que je peux aussi bien communiquer mon amour pour lui par mes gestes? Bon, Simon est outré. La dette commune à nous tous. Est-ce qu'on a vraiment l'idée que nous sommes tous endettés par Jésus? Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés? Est-ce que j'ai honte de ça? Est-ce que j'ai vu à quel point j'ai offensé Dieu? Moi, petit gars élevé dans l'église, j'ai été rebelle contre Dieu, j'ai vu ça, ça me vient encore plus fort maintenant quand j'y pense. J'ai été sauvé de toutes les conséquences de cette rébellion-là parce que j'ai eu une famille chrétienne et tout qui m'ont comme presque éliminé la possibilité de. Mais dans mon cœur, j'ai vu des choses absolument horribles qui sortent directement de l'enfer. C'est dans moi, là. Et Jésus m'a sauvé de ça. OK? Donc, je suis aussi endetté que n'importe qui. Et on peut très vite tomber. Jésus donne la parabole du pharisien. Que je suis content de ne pas être comme ce gars-là. Moi, je fais tout ça. Je fais ma dîme. Je fais tata. Je fais mes prières et tout ça. Et l'autre dit, aie pitié de moi parce que je suis pécheur. OK? Jésus dit, ben là, est-ce que nous avons toujours ce sentiment-là, cette réalité-là, que nous sommes aussi pécheurs que la personne que, selon moi, il ne peut jamais venir au Seigneur, il est trop loin, il est trop... Ah non, non, non. C'est moi, ça. OK? J'ai juste des questions. Cette conversation me dérange. C'est fait pour nous déranger. Évidemment, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. OK? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Attention à de dire combien. OK. Là, le lien de la compréhension pour Simon dans ça était le pardon financier avec cette parabole-là. OK? Le pardon spirituel que Simon ne comprenait pas encore, c'était que lui était aussi grand pécheur, aussi grand que la madame qui pleurait aux pieds de Jésus. Simon est outré. Il ne peut pas toucher cette madame-là. Comment ça se fait? Et Jésus dit, là, il y a un lien que tu ne crois pas, là, que tu n'as pas vu. Okay? Donc, c'est tout un texte à encore méditer. À quel point suis-je conscient que Jésus est mort pour mes péchés et que sans lui, j'ai rien? Okay? Donc, Bon. Centraliser l'amour de Jésus, bon. Il y a beaucoup. Bon, j'ai tourné. Mes questions de réflexion. As-tu l'habitude de dire « Je t'aime, Jésus » Est-ce qu'on est devenu trop compliqué dans nos prières, notre système de prière, notre discipline, Et je vais juste mettre ça, parce que j'ai fait ma petite « Je te salue, Marie » ce matin avec ma liste de prières. Excusez. J'ai fait ma liste de prières et tout ça. J'ai mon plan et tout ça. Mettre ça dans ma poche et dire, Jésus, je t'aime. Je veux juste refléter ta grâce, ton pardon, ta patience. Et oui, j'ai tout ça, j'ai tout ce monde-là, c'est compliqué. Oui, on prie, on lutte pour eux. Je t'aime, Jésus. Est-ce qu'on peut juste être à ses pieds pour lui dire ça? Bon, la paix, pardon. Là, quand Jésus dit, va en paix. Imaginez qu'est-ce que ça voulait dire pour cette madame-là. Elle est travailleuse de la rue. Va en paix. Pour elle, la paix aura l'air de quoi, la paix? C'est des mots lourds de conséquences pour elle, là. Qu'est-ce que cette phrase « va en paix » aura comme sens pour moi cette semaine, si je veux aller en paix de notre retraite? Bon, ça y est pour ça, pour cette madame-là. Avez-vous d'autres observations pour elle? C'est profond comme texte, là. Oui.
Oui, je reviens justement à la réaction de Simon. Peux-tu peut-être décortiquer, je ne sais pas comment tu comprends, sa pensée. Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. C'est-à-dire, il y a quoi derrière ça? Est-ce que c'est... Il saurait que cette femme, c'est une hypocrite ou est-ce que c'est d'autres choses?
Il saurait qu'elle est une prostituée, donc on n'y touche pas. Elle est impure. Donc, il se laisse toucher. Donc, ça a l'air qu'il ne sait pas qu'elle est impure. Et comment un homme de Dieu... Parce que là, dans la mentalité juive, là, l'impureté, c'est de le toucher. OK? Donc, toute cette affaire de anyway, tout ça. Elle est impure, on n'y touche pas. Et là, leur vie est organisée de ne pas se faire impure. Et Jésus ne fait pas attention à ça. Comment il peut être un prophète? Les deux ne vont pas ensemble. OK? Donc, il est juste dans cette mentalité-là. Oh, c'est facile. C'est facile encore pour moi. C'est une des choses qui me déçoit le plus, combien je suis pharisien de nature. Tous ceux... Exemple. Juste une chose. Tous ceux qui s'habillent plus à la mode que moi sont mondains. Tous ceux qui s'habillent pas aussi bien que moi ne font pas attention. Et ils sont sloppy, là, ils donnent une mauvaise réputation au Seigneur. Mais moi, je suis correct. L'anglophone que je suis. Et vous voyez là, et dans ça, je porte un jugement sur tous les autres, sauf moi. Juste dans ça, là. Et sans parler de toutes les autres choses. Oui, j'ai vu une main, là. Oui, oui. Ah oui, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup.
Moi, pour bien imaginer ce qu'il te dit, moi, je suis catholique. Je sais qu'on n'est pas parfait, mais ceux qui me connaissent profondément, ils savent très bien que depuis que je chemine, Jésus est dans ma vie.
Voilà.
Le mieux possible, même si je suis
catholique. Oui, mais oui, mais c'est ça l'attitude, là. C'est ça l'attitude. C'est ça. Les gens savent que je veux le suivre. C'est la seule chose qu'on peut dire. Oui.
C'est sûr que la date, le dernier mot dit par Jésus, qu'elle a été en paix, elle est certainement venue ce jour-là avec un cœur complètement chargé, très lourd.
Oui.
Elle n'en pouvait plus.
Oui. Oui.
Et Jésus a pu bien, donc c'est là qu'il a demandé de partir en paix. Moi, je pense que c'est en fait une bénédiction de la part du Christ. Et le Père léger, sortant de là où Jésus se trouvait, certainement, elle devait avoir une vie nouvelle.
Pouvez-vous imaginer pour elle de voir Jésus droit dans les yeux quand Jésus lui dit tes péchés sont pardonnés? Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans sa vie? Et après ça, de dire, va en paix. Je t'aime. Je te pardonne. Il y a un avenir pour toi. Il y a une vie paisible pour toi. Pouvez-vous imaginer que ça, de quoi ça a l'air pour elle? De... C'est ça l'amour de Jésus. Et évidemment, c'est pas juste émotionnel. Là. Il va à la croix pour elle. OK? Donc, il sait, quand il dit, je te pardonne, tes péchés sont pardonnés parce que moi, je vais payer pour. OK? C'est pas juste Hollywood, là. OK? C'est pas une boîte de chocolat. C'est, il va payer pour. Je t'aime à ce point-là. OK? Donc, il y a beaucoup de profondeur à aller chercher dans ce texte-là, surtout. Mais c'est ce que j'aime dans ces conversations-là. Ils vivent en profondeur différente et là, on change en jeune homme riche. OK? Le jeune homme riche. Où est-il là? OK. Là, juste vite. Pour le jeune homme riche, ce que je vais faire, j'aimerais vous jouer un DVD vite. Où est-il, le jeune homme riche? OK. Et là, je vais mettre... As-tu du son qui sort? C'est de quel côté? Je vais juste mettre le micro près du son. Là. J'étais dans une église haïtienne dernièrement à Ottawa qui ont fait ce texte-là en pièce de théâtre. Et juste là, OK, c'est beau. Et le volume ou quelque chose, est-ce qu'il est au bout? On ne sait pas. OK?
Oui.
OK. OK, là, on y va. Plein écran.
Dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon que Dieu seul. Et les commandements? Tu ne commets pas de meurtre, tu ne commets pas d'adultère, tu ne commets pas de faux témoignage, tu ne fais pas de tort à ton prochain, honore ton père et ta mère. Mais j'ai gardé tout cela de ma jeunesse. Oui, mon ami. Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. Non, là, moi, c'est parce que j'ai payé, j'espérais, moi. J'ai tellement de biens, alors si j'ai tout vendu, moi, je vais devenir pauvre. Alors, comment c'est possible, ça? C'est parce que j'attendais. Alors, ça, c'est impossible.
Qu'il est difficile pour ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Mais alors, qui peut être sauvé? Ah, ben, c'était pas les riches, mais...
Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible.
Croyez en moi. Et je crois en vous.
Vous êtes sauvés.
Amen.
Lucas.
Il est difficile pour ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu.
OK, on sait bien. OK, donc, prends ton temps de regarder. Ça va être plutôt ton visage qui va dire que tu l'aimes, hein? OK? OK, je vais juste... Oh, wow! Vous allez voir ça, hein? Oh, boy! Deux secondes. Donne mon...
Anyway, OK. Coupe de blooper à la fin, là. OK? Voyez-vous le premier blooper? Le premier était... Crois en moi. Je crois en vous. Vous êtes sauvés. Hein? OK? C'est pas ça le texte. C'est un peu ça mon idée. OK. Où est mon jeune homme riche? OK. Ça veut dire que j'aurai mon jeune homme riche? OK. On est là. OK. Encore un verset pour dire qu'on a une conversation à avoir avec Jésus. Jude 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire. On va paraître devant lui, irréprochable dans l'allégresse. OK? Donc, c'est pas compliqué. Mais là, le jeune homme riche. En Marc 10, il faut comprendre que la richesse, à l'époque, c'est un signe de bénédiction. OK? Ça veut dire que Dieu est avec lui. C'est évident. OK? OK. Là, on a... OK, on a le temps qu'il faut, parce que le jeune homme riche, ça dérange comme texte. Donc, on va prendre le temps de décortiquer ça pour une dizaine de minutes, puis on va dîner après. OK? On a le temps? Vous êtes assez de force pour faire une dernière? OK? Bon, c'est bien. J'apprécie ça beaucoup, mais là, ce texte, ça me dérange comme texte, comme faux. Et c'est supposé de nous déranger. OK? Parce que ce n'est pas compensé. Là, le gars court à Jésus. Il vient en courant. Voyez-vous le texte? Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetait à genoux devant lui. Donc, vous êtes dans votre un local à l'université, au cégep, et quelqu'un vient en courant pour dire, j'ai entendu que vous êtes des chrétiens et que vous avez une étude biblique ici. Est-ce que je peux venir, s'il vous plaît, se mettre à genoux devant vous? Est-ce que cela vous est arrivé? Pas dans mon campus. À l'île Algo, ils ne font pas ça. Pas date. On a eu une fille qui est venue parce qu'elle trouvait que le gars qui est à table était assez cute. Donc, elle est venue voir qu'est-ce que c'était, puis on avait un conférencier, puis elle a fini par rester, puis elle a fini par... Et là, est encore 15 ans plus tard, elle est retournée après une vie d'autre chose, mais elle a toujours suivi le Seigneur, et dans mon église. Mais elle n'est pas venue à genoux pour chercher Jésus. OK? Soyons honnêtes. Donc, ce gars-là, il est frappant. Il dit, « Hey, wow, là, c'est cool, là. » Il cherche vraiment. Un vrai chercheur... Seeker Service, là, on l'a, là. Il cherche. Donc, Jésus doit dire, ben, c'est merveilleux, là. C'est pas tout le temps que j'ai ça. Quelqu'un a posé la question déjà, là. Dans la plupart de ces conversations-là, les gens viennent à Jésus. Hein? Et on n'a pas ça, nous. C'est une parenthèse, mais quand même, c'est assez troublant. À quel point est-ce qu'on court après le monde ou est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment... C'est un peu les deux, parce que Pierre dit d'être capable de répondre, d'être prêt à répondre aux questions qu'il nous pose et tout ça. Donc, peut-être une des choses qu'on peut avoir comme réponse à ça, c'est d'avoir un comportement, une réputation, un ministère, de faire des choses sur le campus que les gens vont voir pour que les curieux, curieuses vont dire « Pourquoi vous faites ça? » Okay? Pourquoi vous faites ça? Je sais que le Mathieu Giguère, après moi, à l'Inalgo, il a organisé qu'ils fassent, ils font les boîtes de Noël, l'opération Enfant Noël. Et là, dans le momentum de ça, et évidemment, il y a ici et là les questions, pourquoi vous le faites? Parce que c'est le comportement, c'est l'action qui fait l'annonce et que c'est le questionnement après qui vient pour expliquer pourquoi. Au lieu de dire, nous croyons en Jésus, vous devez croire en Jésus. Comme... Pourquoi? Mais là, nous avons un projet, nous avons un cœur de faire une différence dans la vie des enfants pauvres. Nous voulons... Là, aidez-nous, vous pouvez embarquer dans un projet... Pourquoi vous faites ça? Voyez-vous, l'entrée est beaucoup plus évidente et moins idéologique, mais vraie. Anyway, ça c'est un exemple que j'invente sur le coup, là, mais quand même, c'est une réalité qu'on vit. Mais là, ces gens-là viennent parce qu'ils voient ce que Jésus fait. Ils voient ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils enseignent. Ils sont curieux. Et évidemment, ils sont dans un monde où, avec les Romains et tout ça, là, la question est très claire que ça ne va pas dans leur vie. Ils vivent sous une domination militaire méchante. Donc, la seule chose qu'on peut imaginer, c'est peut-être, disons qu'on est en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les nazis sont là. Et que... Quelqu'un avec l'Évangile, les gens pensaient que cette personne-là allait les délivrer des Allemands en même temps. Il y a du monde intéressé dans ça. Hein? Ça presse. Comme c'est pas bon, là. Comme vraiment pas. Là. Il y a du monde pendu au coin de rue une fois par mois, du monde qui a essayé de battre les Allemands. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va pas du tout, du tout. Donc, les gens sont assoiffés pour une solution. Donc, on comprend qu'ils viennent en courant à Jésus aussi, là. Parce que il y a tout, et aussi leur péché, et aussi dans leur... Anyway. Mais là, le jeune homme riche, ici, vient en courant. Si j'étais Jésus, je serais impressionné. Je dis, ah, enfin, il y a un gars qui a l'affaire, là, qui comprend. C'est bien, là. Bon, suis-moi, puis ça va être correct. Mais c'est pas ce qu'il fait. OK? Premièrement, Le jeune homme riche part sur une mauvaise note en disant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Les commentateurs nous disent que c'était un terme qui était réservé strictement à Dieu et qu'il n'y a personne, même les rabbins ne prenaient pas ce titre-là « Bon maître ». C'était comme un blasphème là de le dire. Et la question c'est, est-ce que le gars est en train de beurrer Jésus pour dire « Là, je... » de lui donner un titre plus haut qu'il pense? Est-ce qu'il s'insère dans ça? Et Jésus, la façon qu'il réplique, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Il est en train de dire, « Comprends-tu ce que tu es en train de dire? M'appelles-tu ça vraiment pour la bonne raison, parce que tu crois vraiment qui je suis? Ou es-tu en train de faire un compliment qui est en dehors de ce qui est normal? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'appelles-tu bon? » OK? Donc, il le colle au pied de mur pour dire, là, est-ce qu'on parle de la même chose ou est-ce qu'on a un monde de compliments que tu veux juste avoir les choses à ta façon? Parce que c'est ça son problème, là. Le jeune homme riche a des choses à sa façon. Et il est en train d'organiser la conversation avec Jésus pour avoir la vie éternelle à sa façon. Et Jésus ne va pas laisser passer ça. Il dit non, mais là, il y a un problème. Là. Arrête. OK? Et vous avez eu déjà des conversations où vous voyez que la personne était plus en manipulation de la chose pour voir qu'il a raison, il est correct, Et vous voyez que ça ne tient pas debout. Là. La personne est en train de manipuler ses propres croyances à sa façon pour se convaincre qu'il est correct. Et quelque part dans ça, vous avez l'obligation de dire « Ouh, ouh, là, non, ça ne marche pas ça. Vous vous trompez. Hein? » C'est dur à dire, mais c'est ce que Jésus est en train de dire avec ce gars-là. Il voit son cœur, il voit son attitude, il voit qu'est-ce qu'il voulait faire, il dit « Ouh, 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 time out, là, t'sais, on va dans la mauvaise direction ici, là. » De m'appeler le bon maître, je ne suis pas certain que c'est pour les bonnes raisons. Est-ce qu'on va vraiment avancer? Donc, tu connais les commandements, il dit. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère et tout ce que vous avez vu dans le texte. Jésus reprend un peu les 10 commandements, mais toujours les 10 commandements autour de la deuxième tablette, là, autour de comment est-ce qu'on fait pour notre voisin. Il n'a pas cité aucun commandement par rapport à qui est Dieu. Les 4 premiers, là. Et donc, le jeune homme riche peut très bien dire avec les 6, « Ah oui, j'ai fait tout ça. » Mais ce qui n'est pas mentionné est le problème. Où est ton Dieu? Qui est ton Dieu? OK? Là, et donc, c'est ça. Et là, Jésus va, au lieu de dire, « Et les 4 premiers commandements, qu'est-ce que tu fais avec? » Il ne dit pas ça. Il dit tout simplement, encore Jésus qui sait tout, là, qui va lire, saisir la personne tout de suite. Je sais qu'il y a un Dieu dans ta vie. Et pour me dire que tu veux vraiment suivre le vrai Dieu, je te suggère de te débarrasser de l'autre Dieu que tu as dans ta vie et me suivre. Parce que pour toi, là, tu es vraiment pris avec tes biens. Tu es aux prises avec tes biens. Pour toi, là, c'est le plus important dans ta vie. Débarrasse-toi de ça, viens me suivre. Est-ce que Jésus était méchant? Hein? Ah, ouais, OK. C'est ça. Il n'est plus le bon maître, là. C'est ça. Non, ça me dérange. Ah, ouais, c'est ça. OK. Est-ce que Jésus était méchant pour dire ça? Qu'est-ce qu'il cherchait vraiment Jésus dans cette conversation-là?
Mais c'est comme un médecin. Le médecin, il est méchant. Mais au fond, il ne l'est pas.
OK. Il est méchant dans le sens, il est méchant contre ce qu'est-ce qui va mal. Qu'est-ce qui ne va pas. Il nous annonce les mauvaises nouvelles.
Oui, puis il nous dit la solution douloureuse nécessaire.
Oui. Non, mais oui. Oui, il cherche vraiment à l'humilier, à voir qu'il y a un problème. Parce que là, encore là, la question de l'usine qui n'avoue pas qu'il y a un problème ne peut pas avancer. Il dit, mon gars, tu as un problème. Oui?
Mais c'est ça, il lui dit pas juste le problème, il dit, moi, je vais te prendre en charge une fois que je vais faire l'opération moi-même.
Oui.
Il dit, suis-moi.
Oui, il n'est pas juste pour éliminer ses richesses. Il dit, suis-moi et tu auras encore meilleur pour m'avoir suivi. Je t'annonce une autre richesse. je t'annonce un autre investissement que tu ne peux jamais perdre. Là, lorsque tu, dans laquelle tu donnes ta vie, là, tu vas être déçu. Ça va être vide. Je veux t'éviter de tout ça. Je veux te sauver de ça. Et là, si tu donnes une nouvelle direction à ta vie, tu vas voir que les richesses n'ont pas d'importance. En réalité, là, parce que dimanche, on va faire ça, on va faire Nicodème, qui pour moi est la réponse au jeune homme riche. Nicodème finit par être content de donner ses biens. « Hey, garde ce que je peux donner! Hey, garde, prenez-le! Ça n'a pas d'importance pour moi! » Voyez-vous? Mais Jésus n'a jamais exigé de Nicodème de donner ses biens. Mais il annonce, parce qu'il a connecté, que c'était son Dieu. C'est ce que j'ai zaché, excuse, j'ai dit Nicodème. Oh boy! On reprend la cassette. Bon, zaché. Oh boy! 55 ans, là. C'est pas beau. Zaché sera, vous allez voir, il est content de se débarrasser de ses richesses. C'est la plus grande joie. Peut-être on peut faire le clip de film Jésus. Vous allez voir, il souriant. « Hey, regarde! Ça me fait tellement de bien! Ce n'est plus mon Dieu! Maintenant, c'est un outil pour bénir d'autres personnes! » OK? Il est libéré de ça. Et ce gars-là n'est pas libéré. Il part pour dire, « Oh non, il est tout triste. Oh non, non, non. Il veut garder... Il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un tenir à quelque chose à tout prix que vous savez très bien ne sera pas satisfaisant dans la langue. OK, mais... Oh boy! Et Jésus n'est pas contre la richesse. Il n'est pas contre les choses dans la vie. Il nous bénit abondamment. Il est contre les faux dieux. Il y a un seul Dieu. Il ne tolère pas un autre. Il n'y aura pas un autre. Quand il y a un autre en compétition, Jésus dit, écarte-le et suis-moi, ou suis l'autre. Mais tu ne peux pas faire les deux. Décide-toi. OK? Donc, c'est assez radical. Est-ce que j'ai une citation juste pour terminer là? Avec ça, là? Bon, j'ai beaucoup prêché. OK. J'ai une citation. Où est-il, là? Je l'avais. OK, ça, c'est le chameau et tout ça. OK, il est là. J'ai vu beaucoup de riches dans ma vie. OK, l'observation biblique. OK, Robert Gundry dit, « L'observation biblique que Jésus a demandé seulement le jeune homme riche devant tous ses biens et non pas tous les autres disciples est réconfortante seulement pour ceux et celles de qui Jésus demanderait autant aujourd'hui. » OK? Vous dites, ah, c'est juste un cas exceptionnel. Là, Jésus ne me demande pas de mettre en priorité mes finances et de mettre lui en premier. Et il ne me demande pas ça. C'est juste le jeune homme riche. Ça ne me dérange pas. Et Robert Gundry est en train de dire, là, c'est justement cette logique-là qui doit te déranger le plus. Si Jésus était ici aujourd'hui, il te demanderait la même chose parce que toi, tu te caches derrière l'idée que Jésus ne demande pas ça. C'est d'avoir découvert que nos richesses, que la santé, que nos capacités, que toutes les bonnes choses que ce Seigneur nous a données sont des outils pour servir à son royaume au lieu pour nous de garder. Ça, c'est la paire de grand prix qui déjoue toutes les autres choses qu'on peut avoir comme valeur. Mes finances sont des outils pour servir Dieu et les autres au lieu d'un but en soi pour me valoriser, moi, combien je suis riche. C'est des outils. Quand on les voit comme des outils, c'est notre plus grande joie. Jésus dit, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Hein? Donc, quelles priorités dans ma vie sont exprimées par mes finances? Juste une question pour ça, là. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a des priorités que je pense avoir quand mes finances démontrent le contraire? Si quelqu'un était pour évaluer ma situation financière, mes dépenses, mes épargnes, ce que je dépense pas, si c'est ça l'explication, l'expression de mes priorités, simplement par mes finances, guichet automatique, carnet de chèque, dons préautorisés, tout. C'était ça vraiment en chiffres, mes priorités dans ma vie. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je dis à l'Église et devant Dieu combien tout est important pour lui, et que mes finances disent le contraire? Est-ce possible? Est-ce que c'est aussi équilibré et clair dans ma tête que je pensais? C'est juste ça comme question, que c'est fait pour nous déranger. Si j'avais été l'éditeur du texte biblique, je n'aurais pas mis cette histoire-là dans le texte parce que ça dérange. OK? Mais il est là. Donc, et juste en dernier, Jésus dit, tout est possible avec Dieu, mais avec les hommes, le salut est impossible. Parce que c'est ça, qui peut être sauvé, donc? Jésus est celui qui va chercher n'importe qui dans les situations les plus impossibles. Le salut vient de lui. Nous étions morts pour nos fautes. Il nous a rendus à la vie. Oui, le salut vient de lui. Comment faire la paix avec notre impuissance devant la mort spirituelle? C'est lui qui la donne. C'est lui qui nous fait vivre. Donc, il est temps pour une pause comme il faut. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.
Merci, Wesley.
OK, c'est ça.